Alors pour l'enseignement d'aujourd'hui, j'ai choisi en fait de lire et un tout petit peu commenter un enseignement magistral qui avait été donné en 2006 pour le début du carême par le père Cantalamessa, prédicateur de la maison pontificale, et qu'il a prononcé le premier vendredi du carême 2006 en présence du pape Benoît XVI et de toute la curie. Et il commente de façon très profonde le mystère de l'agonie de Jésus à Gethsémani, et il en montre aussi des implications un petit peu inattendues auxquelles on ne pense pas. Si j'ai aussi choisi de lire un texte de lui, son enseignement en fait, magistral, c'est parce que le père Cantalamessa était une figure particulière du renouveau charismatique catholique qu'il a toujours soutenu, et il en faisait déjà partie au moment où il est entré au service du pape, et cela dès 1984. Et lors du 50e anniversaire du renouveau catholique, pendant la Pentecôte à Rome, il est intervenu à plusieurs reprises, mais surtout pendant la grande veillée du samedi soir, avec donc une intervention très remarquée, mais surtout il a beaucoup entraîné de façon très inspirée la prière qui est montée de cette foule en ce samedi soir, en présence du pape François. Pour la petite histoire, on peut trouver une vidéo du temps où le pape François n'était pas encore le pape François, mais était encore archevêque au début de son ministère, archevêque à Buenos Aires, en Argentine. Et il avait un jour demandé à un groupe de prière du renouveau de prier sur lui, pour qu'il reçoive l'effusion de l'Esprit. Et parmi ceux qui prient pour lui, il y avait déjà le père Cantalamessa. Je laisse maintenant, si je puis dire, la parole à cet éminent prédicateur, théologien et exégète hors normes. Le premier titre qu'il donne à son premier paragraphe, nous sommes baptisés dans sa mort, dans la mort du Christ. Alors maintenant, c'est lui qui parle. Dans les méditations de l'Avent qui ont précédé, j'ai essayé de montrer combien nous avons aujourd'hui besoin de redécouvrir le noyau originel du message chrétien, en présence duquel naît en général l'acte de foi. La passion et la mort du Christ représentent l'élément fondamental de ce noyau, passion et mort du Christ. Alors maintenant, quand la Messa précise, du point de vue objectif, ou du point de vue même de la foi, l'élément vraiment significatif est la résurrection, et non la mort du Christ. Saint Augustin écrit, « C'est peu de croire que le Christ est mort. Les païens, même les impies, le croient aussi. Tous croient qu'il est mort. La foi chrétienne consiste à croire en sa résurrection. » Croire qu'il est ressuscité, donc c'est ça l'important pour nous, dit saint Augustin. Mais du point de vue subjectif, l'élément le plus important pour nous est bel et bien la passion et non la résurrection. Saint Augustin écrit encore, « Considérez donc combien sont sacrés ces trois jours du crucifixion, de la sépulture et de la résurrection. » Ce que représente le premier de ces trois jours, celui de la croix, c'est ce que nous accomplissons dans la vie présente. C'est pour ça que c'est si important. Mais ce qui figure la sépulture et la résurrection, nous le préparons par la foi et l'espérance. Donc, citation de saint Augustin. Les récits de la Passion, il s'agit de la partie la plus importante des évangiles, nous dit le père Cantalamessa. Et cependant, c'est celle qui est le moins mise en valeur au cours de l'année liturgique, puisqu'elle n'est lue qu'une fois par an pendant la semaine sainte, et qu'en raison de la longueur des rites, il est par ailleurs impossible de prendre le temps de l'expliquer et de la commenter. Par nos réflexions, nous nous proposons de combler au moins en partie cette lacune. Nous voulons demeurer un peu avec Jésus à Gethsémani. Avec le baptême, nous avons été baptisés dans sa mort, ensevelis avec lui, selon l'Épître aux Romains. Ce qui s'est produit un jour de manière sacramentelle et mystique dans le sacrement doit s'accomplir de manière existentielle aussi dans nos vies. Nous devons faire un bain salutaire dans la passion afin d'y être renouvelés, fortifiés, transformés. La bienheureuse Angèle de Foligno devait écrire « Je m'enfouis dans la passion du Christ et je reçus l'espérance qu'en elle j'aurais trouvé ma libération. » Le père Cantalamessa poursuit maintenant son enseignement avec un nouveau sous-titre « Gethsémani, un fait historique, historique ». L'agonie de Jésus dans le jardin des Oliviers est un fait attesté dans les évangiles sur quatre colonnes d'une certaine façon, c'est-à-dire en fait par les quatre évangélistes. Jean, en effet, en parle également à sa manière lorsqu'il met sur les lèvres de Jésus les paroles « Maintenant mon âme est troublée » et qui rappelle les paroles « Mon âme est triste » des synoptiques et les paroles dans saint Jean « Père, sauve-moi de cette heure » qui rappelle encore la parole « Que cette coupe passe loin de moi » dans les évangiles synoptiques. Il est extraordinaire qu'un fait aussi peu apologétique ait trouvé une place aussi importante dans la tradition. Seul un événement historique clairement prouvé peut expliquer l'importance donnée à ce moment de la vie de Jésus. Les évangélistes ont chacun donné à cet épisode une coloration différente, correspondant à leur sensibilité et aux besoins de la communauté pour laquelle ils écrivaient. Ils n'ont cependant rien ajouté de vraiment étranger au fait. Chacun d'entre eux a plutôt mis en lumière certaines des applications spirituelles infinies de ce fait historique. Un éminent exégète catholique résume ainsi le contenu de l'épisode initial de la Passion. Jésus qui se sépare de ses disciples, l'angoisse de son âme lorsqu'il prie que la coupe s'éloigne de lui, la réponse amoureuse du Père qui envoie un ange pour le soutenir, la solitude du maître qui par trois fois trouve ses disciples endormis au lieu d'être en train de prier avec lui. Le courage exprimé dans la résolution finale d'aller à la rencontre du traître, prise dans les différents évangiles, cette combinaison de souffrance humaine, de soutien divin et d'offrande de soi solitaire a beaucoup contribué à faire aimer Jésus par ceux qui croient en lui, devenant même parfois un objet d'art et de méditation. Le père Cantalamessa poursuit maintenant. Les gestes que Jésus accomplit sont les gestes d'une personne qui se débat dans une angoisse mortelle. Il se jette à plat ventre, se lève pour aller vers ses disciples, revient s'agenouiller puis se lève à nouveau. Il sue des gouttes de sang. De sa bouche sort la supplication « Abba, Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe ». La violence de la prière de Jésus, alors que sa mort est imminente, ressort surtout dans la lettre aux Hébreux, où il est dit du Christ, c'est lui qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Violente clameur et larmes. Jésus est seul face à la perspective d'une souffrance énorme qui est sur le point de s'abattre sur lui. L'heure, son heure, à la fois attendu et redouté de l'affrontement final avec les forces du mal, l'heure de la grande épreuve est arrivée. Mais la cause de son angoisse est encore plus profonde. Il se sent chargé de tout le mal et de toutes les mauvaises actions du monde. Ce n'est pas lui qui a commis ce mal, mais c'est la même chose, car il l'a librement pris sur lui. Il a porté lui-même nos fautes dans son corps, nous dit saint Pierre. C'est-à-dire, selon le sens de cette expression dans la Bible, dans sa propre personne. Il a porté lui-même nos fautes dans son âme, son corps et dans son cœur. Jésus est l'homme qui a été fait péché, dira saint Paul. Le père Cantalamessa continue à enseigner, maintenant nous parlons de deux manières différentes de lutter avec Dieu, car Gethsémani, c'est un combat. Jésus à Gethsémani ne prie pas seulement pour nous exhorter à prier. Il prie car, étant vrai homme, éprouvé en tout d'une manière semblable, à l'exception du péché, il fait l'expérience du même combat que nous, face à ce qui répugne à la nature humaine. Le mot « agonie » appliqué à Jésus à Gethsémani doit être compris dans le sens originel de lutte, plus que dans le sens actuel d'agonie. Le temps où la prière se transforme en lutte, fatigue, en agonie est arrivé. Et je parle ici de la lutte avec Dieu. Cela se produit lorsque Dieu demande une chose que la nature n'est pas prête à lui donner, et lorsque l'action de Dieu devient incompréhensible et déconcertante. La Bible présente un autre cas de lutte avec Dieu dans la prière, et il est très instructif de comparer les deux épisodes. Il s'agit de la lutte de Jacob avec Dieu, au chapitre 32 de la Genèse. Alors ici, j'interromps un instant l'enseignement du père Cantalamessa pour lire ce passage un peu énigmatique du livre de la Genèse. Il nous faut l'entendre pour mieux comprendre ensuite de quoi il s'agit. Et Jacob resta seul, après avoir renvoyé tout ce qui l'accompagnait, ses femmes, ses enfants, servants et servantes. Il les a renvoyés. Et il resta seul. Et quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, il le frappa à l'emboîture de la hanche. C'est le mystérieux personnage là qui le frappe à l'emboîture de la hanche. Et la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Le mystérieux personnage dit « Lâche-moi ». Il dit ça à Jacob « Lâche-moi car l'aurore est levée ». Mais Jacob répondit « Je ne te lâcherai pas, que tu ne m'aies béni ». Et Jacob lui demanda encore « Quel est ton nom ?» Pardon, c'est le mystérieux personnage qui dit « Quel est ton nom ?» Jacob, répondit-il. Il reprit « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as été fort contre Dieu et contre les hommes, et tu l'as emporté ». Jacob fit cette demande, « Révèle-moi ton nom, je te prie. » Mais il répondit, « Et pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là même, il le bénit. Passage mystérieux que le père Cantalamessa va un petit peu essayer d'éclairer aussi à la lumière de Gethsémani. Tout d'abord, le cadre entre les deux épisodes est très similaire. La lutte de Jacob se déroule la nuit, au-delà d'un torrent, le Yabok, on lit cela dans les versets qui précèdent le passage que je viens de citer, donc Jacob franchit le torrent du Yabok, et la lutte de Jésus aussi se déroule la nuit au-delà du torrent du Cédron. Jacob éloigne de lui esclaves, femmes et enfants pour rester seul. Et Jésus également s'éloigne des trois derniers disciples pour prier. Mais pourquoi Jacob lutte-t-il avec Dieu ? Voilà la grande leçon que nous devons apprendre. « Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni, » dit Jacob. C'est-à-dire, si tu n'as pas fait ce que je te demande. En fait, c'est ça que ça veut dire. Puis lorsque Jacob dit « Révèle-moi ton nom, je te prie, quel est ton nom ?» c'est que Jacob est convaincu qu'en utilisant le pouvoir donné par le fait même de connaître le nom de Dieu, qu'il pourra alors dominer ses ennemis dont il se sent menacé. En particulier la rencontre prochaine avec son frère Ésaü qui vient à sa rencontre, effectivement. Toutefois, Dieu le bénit, mais il ne lui révèle pas son nom. Maintenant, tournons-nous vers Gethsémani. Jésus lutte pour faire plier Dieu à sa volonté. Jésus lutte pour faire plier sa volonté humaine. Alors, Jacob lutte pour faire plier Dieu à sa volonté. Ça, c'est le cas de Jacob, nous l'avons vu. Tandis que Jésus, lui, lutte pour faire plier sa volonté humaine à Dieu. Lorsqu'il dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Il lutte car l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Naturellement, on se demande à qui ressemblons-nous lorsque nous prions dans des situations difficiles. Nous ressemblons à Jacob, à l'homme de l'Ancien Testament, lorsque dans la prière nous luttons pour pousser Dieu à changer de décision, plus que pour nous changer nous-mêmes et accepter sa volonté. Pour qu'il nous ôte cette croix, plus que pour être en mesure de la porter avec lui. En revanche, nous ressemblons à Jésus si, même au milieu des gémissements et de la chair qui sue du sang, nous cherchons à nous abandonner à la volonté du Père. Les résultats des deux prières sont très différents. Dieu ne donne pas son nom à Jacob, mais à Jésus, il donnera le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ce qu'on lit dans l'Épître aux Philippiens. Le Père lui a donné, l'a exalté, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, en résumé, si on a bien compris, Jacob lutte pour que Dieu se plie à sa volonté, et Jésus, au contraire, lutte pour que sa volonté humaine à lui se plie entièrement à la volonté divine, à la volonté du Père. Parfois, en persévérant dans ce type de prière, il arrive une chose étrange, qu'il est bon de connaître pour ne pas perdre une occasion précieuse. C'est que les rôles sont inversés. Dieu devient celui qui prie et l'homme celui qui est prié. Nous nous sommes mis en prière pour demander une chose à Dieu. Et une fois en prière, nous nous rendons progressivement compte que c'est lui, Dieu, qui nous tend la main, nous demandant quelque chose. Nous sommes allés lui demander d'enlever une épine de notre chair, une croix, une épreuve, de nous délivrer de telle ou telle charge ou situation, et même de la proximité d'une personne. Et voilà que Dieu nous demande précisément d'accepter cette croix, cette situation, cette charge, cette personne. Alors là, le Père, quand il aimait ça, comme il le fait souvent, il va citer quelque chose d'un petit peu pittoresque, un poème de Tagore, qui nous aide à comprendre de quoi il s'agit. Alors l'histoire dit que c'est un mendiant qui parle et qui raconte son expérience. Donc voilà le mendiant qui parle. J'étais allé mendiant de porte en porte sur le chemin du village lorsqu'un chariot d'or apparut au loin. C'était le chariot du fils du roi. Je pensais, c'est l'occasion de ma vie. Et je m'assis en ouvrant toute grande ma besace, attendant que l'on me fasse l'aumône sans même que je la demande, que les richesses pleuvent sur le sol autour de moi. Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque, arrivé près de moi, le chariot s'arrêta, le fils du roi descendit et il tendit la main, la main droite. Je pris un grain de riz dans ma besace, un seul, le plus petit, et je le lui tendis. Mais quelle tristesse lorsque le soir, fouillant dans ma besace, je trouvais un grain de riz en or, mais un seul, et le plus petit. Je pleurais amèrement de ne pas avoir eu le courage de tout donner. Belle histoire qui illustre bien cette sorte de commerce de Dieu avec nous, où finalement nous sommes totalement gagnants si nous donnons tout à Dieu. Il nous donne tout, et bien plus encore. Le cas le plus sublime de cette inversion des rôles est précisément la prière de Jésus à Gethsémani. Il prie pour que le Père lui ôte la coupe, et le Père lui demande de la boire pour le salut du monde. Jésus ne donne pas une goutte de son sang. Alors là, je m'interromps de nouveau, parce que ici, le Père Cantalamessa fait allusion à une prière attribuée à saint Thomas d'Aquin par rapport à l'Eucharistie. La prière de saint Thomas d'Aquin dit ceci: « Jésus, mon Seigneur, moi qui suis impur, purifie-moi par ton sang dont une seule goutte aurait suffi à sauver le monde entier de toute faute. » Une seule goutte aurait suffi. Mais objectivement, ça n'a pas beaucoup de sens si Jésus n'avait donné qu'une seule goutte. Donc Jésus ne donne pas une goutte de son sang, mais toutes les gouttes de son sang. Mais justement, le Père le récompense en le constituant également comme homme, Seigneur, si bien qu'une seule goutte désormais de ce sang suffirait maintenant à sauver le monde entier. Donc on voit bien l'inversion. Et ça rejoint bien la petite histoire de Tagore là. Jésus donne toutes les gouttes de son sang et désormais il est établi Seigneur avec une telle puissance, un tel pouvoir, qu'une seule goutte de son sang aurait effectivement suffi pour que le monde entier soit sauvé. Le paragraphe suivant a comme sous-titre « Entré en agonie, il priait de façon plus intense ». Ces paroles ont été écrites par l'évangéliste Saint-Luc avec une claire intention pastorale. Montrer à l'Église de son temps, soumise désormais elle aussi à des situations de lutte et de persécution, ce que le Maître a enseigné à faire dans de telles circonstances. La vie humaine est parsemée de tant de petites nuits de Gethsémani. Les causes peuvent être nombreuses et diverses. Une menace pour notre santé qui se profile, une incompréhension de notre milieu, l'indifférence de ceux qui nous entourent, la peur des conséquences de quelques erreurs commises. Mais il peut y avoir des causes plus profondes, la perte du sens de Dieu, la conscience écrasante de notre péché et de notre indignité, l'impression d'avoir perdu la foi, ce qu'en fait les saints ont appelé la nuit obscure de l'esprit. Jésus nous enseigne quelle est la première chose à faire dans ces cas. Recourir à Dieu à travers la prière. Il ne faut pas se tromper. Il est vrai que Jésus à Gethsémani cherche aussi la compagnie de ses amis. Mais pourquoi la cherche-t-il? Non pas pour s'entendre dire de bonnes paroles, pour se distraire ou se faire consoler. Alors ça c'est moi qui l'ajoute, mais vous avez un exemple typique de cela dans l'Ancien Testament, les fameux amis de Job, hein, qui croient bien faire, mais qui insupportent Job terriblement dans sa souffrance. J'avais un professeur de théologie et d'exégèse en Belgique, avec beaucoup d'humour, qui dit: les amis de Job, ce sont des véritables rabâcheurs d'amen. Amen à tout, voilà. Alors c'est pas ça dont nous avons besoin dans la grande épreuve. Donc voilà, donc Jésus n'avait pas besoin de ses amis pour s'entendre dire des bonnes paroles, pour se distraire ou se faire consoler. Il demande qu'il soit à ses côtés dans la prière, pour qu'il prie avec lui. Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi. Veillez et priez. Il est important de noter de quelle manière débute la prière de Jésus à Gethsémani, dans la source la plus ancienne qui est celle de Marc, l'évangile de Marc. Abba, Père, tout est possible. Le philosophe Kierkegaard fait à ce propos des réflexions très éclairantes. Il dit « Le point décisif est que pour Dieu, tout est possible. » L'homme tombe dans le vrai désespoir seulement quand il n'a plus aucune possibilité devant lui. Quand, comme on dit couramment, il n'y a plus rien à faire. Lorsque quelqu'un s'évanouit, on l'envoie chercher de l'eau de Cologne. Mais quand quelqu'un tombe dans le désespoir, il faut dire « trouver une possibilité », lui trouver absolument une possibilité. La possibilité est l'unique remède. Donnez-lui une possibilité et le désespéré retrouvera son entrain. Il reprendra vie. Parce que si l'homme reste sans possibilité, c'est comme si l'air venait à lui manquer. Parfois, la créativité de l'imagination humaine peut suffire pour trouver une possibilité, mais à la fin, c'est-à-dire quand il s'agit de croire, il ne reste plus qu'une seule chose utile, que pour Dieu, justement, tout est possible. Donc cette lutte, cet antidote du désespoir, tout est possible. Il n'y a aucune possibilité qui soit fermée. Et cette possibilité, toujours à portée de la main pour un croyant, eh bien c'est la prière justement. Prier, c'est comme respirer. Oui, mais si quelqu'un a déjà prié et sans succès, eh bien qu'il prie encore. Prier avec une plus grande insistance, comme Jésus à Gethsémani. On pourrait toutefois objecter que Jésus ne fut pas écouté. Mais la lettre aux Hébreux dit exactement le contraire. Il fut exaucé en raison de sa piété. Alors là, je reprends un enseignement qui a été donné ici, inspiré par le Père, par le cardinal Vanois. Il a été exaucé, mais comment ? Non pas en étant épargné, mais en recevant la grâce pour aller jusqu'au bout. Et de ce fait, d'être effectivement victorieux et du coup, d'être définitivement, éternellement soustrait du coup à la mort. Donc il fut exaucé en raison de sa piété, parce qu'il est allé jusqu'au bout, parce qu'il a insisté. Luc exprime cette aide intérieure que Jésus reçoit du Père à travers le détail de l'ange. Alors lui apparut venant du ciel un ange qui le réconfortait, une aide intérieure qu'il reçoit de son Père à travers cette visite de l'ange. Mais, dit le Père Cansalamessa, il s'agit là d'une anticipation. Là, il est réconforté par l'ange. C'est une aide qui lui vient du ciel. Le véritable et grand exaucement, comme je viens de le dire, du Père fut en fait la résurrection du Christ. Sur lui, dit l'Épître aux Romains, la mort n'a plus aucun pouvoir. Dieu, notait encore saint Augustin, écoute. Eh bien, c'est très curieux, c'est paradoxal. Dieu, dit saint Augustin, écoute quand il n'écoute pas. C'est-à-dire quand nous n'obtenons pas ce que nous demandons. Son retard même à nous exaucer est déjà le fait d'exaucer pour pouvoir nous donner plus que ce que nous demandons. Si malgré tout nous continuons à prier, c'est le signe qu'il nous donne sa grâce. Si Jésus, à la fin de la scène, déclare de manière décidée « Levez-vous, allons », c'est parce que le Père lui a donné plus que 12 légions d'anges pour le défendre, il lui a inspiré la volonté de souffrir pour nous en infusant en lui la charité. La capacité de prier est notre grande ressource. De nombreux chrétiens, y compris très engagés, font souvent l'expérience de leur impuissance face aux tentations et de l'impossibilité de s'adapter aux très hautes exigences de la morale évangélique. Alors, contrairement à la sainte qu'on a célébrée aujourd'hui, qui est un exemple lumineux, Maria Goretti, mais de nombreux chrétiens font l'expérience de leur impuissance face aux tentations et de l'impossibilité de s'adapter aux exigences de la morale évangélique, et concluent parfois qu'ils n'y arrivent pas et qu'il est impossible de vivre la vie chrétienne totalement. Dans une certaine mesure, ils ont raison. Seul, en effet, il est impossible d'éviter le péché. Il faut la grâce. La grâce nous est-il enseignée est gratuite. Elle est aussi, et on ne peut pas, elle est gratuite, et on ne peut pas la mériter. Elle est imméritée. Que faire alors? Désespérer? Se rendre? En te donnant la grâce, Dieu te commande de faire ce que tu peux et de demander ce que tu ne peux pas faire, dit le Concile de Trente. Je répète cette phrase. En te donnant la grâce, Dieu te commande de faire ce que tu peux et de demander ce que tu ne peux pas faire, dit le Concile de Trente. La différence entre la loi et la grâce est précisément celle-ci. Dans la loi, Dieu dit à l'homme « Fais ce que je te commande ». Dans la grâce, l'homme dit à Dieu « Donne-moi ce que tu m'ordonnes de faire ». La loi commande, la grâce demande. Après avoir découvert ce secret, saint Augustin, qui jusqu'alors avait combattu en vain pour être chaste, changea de méthode et au lieu de lutter contre son corps, commença à lutter avec Dieu. Il dit « Vous m'ordonnez la continence, donnez-moi ce que vous m'ordonnez et ordonnez-moi ce qu'il vous plaît. » Et nous savons qu'il obtint la chasteté. Jésus a donné par avance à ses disciples le moyen et les paroles pour s'unir à lui dans l'épreuve. Ce moyen, c'est le Notre Père. Il n'existe aucun état d'âme ne pouvant se refléter dans le Notre Père et qui ne trouve en lui la possibilité de se traduire en prière, la joie, la louange, l'adoration, l'action de grâce, le repentir. Mais le Notre Père est surtout la prière du temps de l'épreuve. Il existe une ressemblance évidente entre la prière que Jésus laissa à ses disciples et celle qu'il éleva lui-même au Père à Gethsémani. En réalité, il nous a laissé sa prière en nous donnant le Notre Père. C'est la prière de Jésus et celle qui s'est exprimée dans l'angoisse à Gethsémani. La prière de Jésus commence comme le Notre Père par le cri « Abba, Père ». Ou « Mon Père ». Elle se poursuit comme le Notre Père en demandant que sa volonté soit faite. Il demande que la coupe passe loin de lui, comme dans le Notre Père, nous demandons d'être délivrés du mal. Il dit à ses disciples de prier pour ne pas entrer en tentation. Il nous fait conclure le Notre Père par les paroles « Ne nous soumets pas à la tentation ». Quel réconfort à l'heure de l'épreuve et des ténèbres de savoir que l'Esprit-Saint continue en nous la prière de Jésus à Gethsémani, que les gémissements ineffables avec lesquels l'Esprit intercède pour nous à ces moments-là parviennent au Père, mêlés aux invocations et supplications présentées avec une violente clameur et des larmes par Jésus. Le dernier paragraphe que commente un petit peu quant à la Messa, Jésus est en agonie jusqu'à la fin du monde. Nous devons retenir un dernier enseignement avant de prendre congé de Jésus à Gethsémani. Saint Léon le Grand dit que la passion du Christ se prolonge jusqu'à la fin des siècles. Et le philosophe Pascal lui fait écho dans la célèbre méditation sur l'agonie de Jésus, que je vous lis, même si elle est bien connue de certains. Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Je pensais à toi dans mon agonie. J'ai versé telle goutte de sang pour toi. Veux-tu qu'il me coûte toujours du sang de mon humanité sans que tu donnes des larmes? Je te suis plus ami que tel et tel, car j'ai fait pour toi plus qu'eux, et ils ne souffriraient pas ce que j'ai souffert de toi, et ne mourraient pas pour toi dans le temps de tes infidélités et cruautés, comme j'ai fait et comme je suis prêt à faire, et fait dans mes élus au Saint-Sacrement. Tout cela, nous dit le Père Cantalamessa, n'est pas une simple façon de parler ou un forçage psychologique. Cela correspond mystérieusement à la vérité. Dans l'esprit, Jésus est en cet instant également à Gethsémani, dans le prétoire, sur la croix. Et pas seulement dans son corps mystique, en celui qui souffre, ou qui est emprisonné, ou qui est tué, mais d'une manière que nous ne pouvons pas expliquer également dans sa personne. Ceci est vrai non pas en dépit de la résurrection. Alors là, le Père Cantalamessa touche un point théologique très important. Nous, on aurait envie de dire, il est ressuscité, il est dans la gloire du Père. La mort n'a plus d'aucun pouvoir sur lui. Comment est-ce qu'il peut encore souffrir? Et donc là, Cantalamessa dit, il souffre encore, il est encore en agonie, il est encore sur la croix. Et ceci est vrai non pas en dépit de la résurrection, mais précisément à cause de la résurrection qui a rendu le crucifix vivant pour les siècles. L'Apocalypse nous présente l'agneau au ciel, debout certes, c'est-à-dire ressuscité et vivant, mais avec les signes encore visibles de son immolation. Et là, nous touchons un grand mystère qui s'éclaire un petit peu grâce à cet enseignement. Comment Jésus peut-il encore souffrir alors qu'il est dans la gloire? Or, justement, sa gloire fait et donne un poids d'éternité, une permanence à ce qu'il avait naguère souffert à un moment de l'histoire. C'est ce qui nous permet à l'heure sainte de consoler Jésus, même 2000 ans à l'avance, justement. Le lieu privilégié où nous pouvons rencontrer ce Jésus en agonie jusqu'à la fin du monde, eh bien c'est l'Eucharistie. Jésus l'institua juste avant de se rendre au Jardin des Oliviers, afin que ses disciples puissent, à n'importe quelle époque, devenir contemporains de sa passion. Si l'Esprit nous inspire le désir de passer une heure aux côtés de Jésus à Gethsémani, le moyen le plus simple de le faire est de passer le jeudi soir une heure devant le Saint-Sacrement. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire dans un instant. Ceci ne doit bien sûr pas nous faire oublier l'autre manière par laquelle le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire à travers les membres de son corps mystique. Et d'ailleurs, si nous voulons concrétiser nos sentiments à son égard, le chemin obligé est précisément de faire à l'un d'eux ce que nous ne pouvons faire avec lui, justement, qui est maintenant dans la gloire, c'est de consoler concrètement par les actes de la charité corporelle, les œuvres corporelles de la charité, de la miséricorde. Le mot Gethsémani est devenu le symbole de toute souffrance morale. Jésus n'a encore subi aucun tourment physique à ce stade-là. Sa peine est uniquement intérieure et pourtant il ne sut du sang que là, lorsque son cœur, et pas encore sa chair, est écrasé. Le monde est très sensible aux souffrances corporelles, il s'en émeut facilement. Il est beaucoup moins sensible aux souffrances morales, dont il se moque même parfois, en les confondant avec de l'hypersensibilité, de l'autosuggestion et des lubies. Dieu prend la souffrance du cœur très au sérieux et nous devrions faire de même. Je pense à qui voit se briser le lien le plus fort qu'il possédait dans la vie et se retrouve seul. Je pense à celui qui est trahi dans ses affections, angoissé face à une chose qui menace sa vie ou celle d'une personne qui lui est chère. À celui qui, à tort ou à raison, se voit montré du doigt d'un jour à l'autre et devient la risée de tous. Et le père Cantelamessa de la Messa ajoute que ce soit à tort ou à raison, là, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence de ce point de vue. Combien de Gethsémani sont cachés dans le monde? Peut-être sous notre propre toit, derrière la porte du voisin, chez celui qui se trouve à la table de travail d'à côté. À nous de trouver et de nous faire proches de celui qui s'y trouve. Oui, que Jésus ne doive pas dire en ses membres « J'espérais la compassion, mais en vain, des consolateurs, et je n'en ai pas trouvé. » Mais qu'il puisse en revanche nous faire entendre au fond du cœur la parole qui récompense tout. « C'est à moi que vous l'avez fait. » Amen.